Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Jeanne d'Arc depuis 1431.
Jeanne sans portrait, peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Oh Jeanne sans sépulture, regarde cette ville fidèle.
Bon, 20 000 statues sans compter celles des églises, André Malraux, en avançant ce chiffre, est peut-être pris un peu par la fièvre. À Paris, il n'y en a que 3, et les efforts démultipliés de la famille Le Pen ne suffisent même pas à les fleurir tout le 1er mai. C'est dès 1502 qu'apparaît une représentation sculptée de Jeanne à Orléans, la ville fidèle. Elle figure au pied d'un calvaire dressé sur le pont qui enjambe la Loire. Orléans d'ailleurs célèbre depuis 1430 la levée du siège de 1429 par les Anglais, qui ouvrit ensuite au dauphin Charles le chemin du Sacre. Aujourd'hui, c'est un défilé qui est organisé le deuxième dimanche de mai. Jamais Orléans n'a manqué à cette cérémonie, sauf pendant les quelques années de la terreur et de la déchristianisation. Orléans, qui aides au pays de Loire, disait Peggy. Orléans, la fidèle, dit Malraux. Nous entendrons dans cette émission plusieurs extraits du discours que le ministre du Général prononça en mai 1961 dans la Bonne Ville. C'est aussi une tradition républicaine qu'un haut responsable politique s'y exprime. Le premier président à l'avoir fait fut Doumergue en 1929, peu après la canonisation et l'instauration d'une fête nationale de Jeanne. François Mitterrand fit le déplacement l'année d'après son élection. Récemment, le précédent maire d'Orléans avait fait le choix plutôt d'inviter des vedettes comme Stéphane Bern ou Audrey Pulvar. En 2016, son successeur renoue avec le passé, un passé un peu ravalé, puisque dimanche, c'est Emmanuel Macron qui présidera aux cérémonies de Jeanne d'Arc.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Colette Beaune, bonjour Colette Beaune.
Bonjour.
À peu près au moment où Stéphane Bern présidait les cérémonies d'Orléans, l'Académie française vous décernait son grand prix historique pour une œuvre consacrée pour le Moyen-Âge, elle dépasse parfois le Moyen-Âge, à l'étude politique de la nation et à l'étude des femmes.
Oui, il n'y a pas le rapport entre les deux événements.
Ah bon, non, d'accord, vous parlez de Bern et de vous. Oui, oui. La collection Tempus chez Perrin a rendu disponible sous format de poche vos deux livres sur Jeanne d'Arc. Quand nous songions à cette émission, vous m'avez dit de suite, il faut le disque du discours de Malraux.
Oui. Oui, parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je l'ai utilisé lors du 500e anniversaire, quand j'ai fait le discours à Rouen, devant la foule rassemblée sur la grande place, à côté du lieu du bûcher, ce qui est très impressionnant. Et c'est un discours qui permet à la fois de soutenir l'identité de Jeanne et de la France et en même temps d'insister sur le visage inconnu. C'est-à-dire que tout le monde peut être Jeanne d'Arc, fille voilée ou autre, ça n'a pas d'importance, justement parce qu'on ne connaît pas le visage. C'est ce que je trouve de très beau dans ce discours.
Vous parlez du bûcher. Paul Claudel, quand il écrivait sur Jeanne d'Arc, son oratorio en compagnie de Honegger, disait « il faut toujours partir du sommet ». Et le sommet pour Jeanne d'Arc, c'est évidemment le bûcher en 1431.
Et la première flamme vint, et avec elle, le cri atroce qui allait faire écho dans tous les cœurs chrétiens, au cri de la Vierge lorsqu'elle vit monter la croix du Christ sur le ciel livide. Après quoi, Jeanne ne prononça plus que le mot Jésus. Alors, depuis ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'au cimetière de Terre Sainte, la vieille chevalerie morte se leva dans cette ombre. Dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, les preux de la table ronde et les compagnons de Saint-Louis, les premiers combattants tombés à la prise de Jérusalem, et les derniers fidèles du petit roi lépreux. Toute l'assemblée des rêves de la chrétienté regardait de ses yeux d'ombre monter les flammes qui allaient traverser les siècles vers cette forme enfin immobile qui était devenue le corps même de la chevalerie française.
Pourvu qu'Emmanuel Macron, qui a beaucoup d'occupations, n'écoute pas cette émission, parce que quand même le défi est difficile à relever. Ce discours, il a d'abord été prononcé à Orléans, et ensuite Malraux l'a réutilisé, réaménagé à Rouen, 3 ans plus tard, en 1964. C'est la version de Rouen qui fait foi, parce que c'est elle qui est éditée dans la bibliothèque de la Pléiade. Mais nous, nous vous proposons la version originale. Ce sont les deux premiers grands lieux, Orléans et Rouen.
Oui, parce que Orléans, à cause de la fête qui pratiquement n'a pas cessé, sauf durant la Révolution, et a été rétablie dès 1803 par Napoléon. C'est le seul endroit où il y a une continuité mémorielle ancrée non seulement dans une ville, mais dans des lieux bien précis, l'endroit du bûcher, le pont sur la Loire, la forteresse des Tourelles. Donc, il y a un circuit joannique très précis que l'on produit chaque année. Et des objets, l'étendard, qui évidemment n'est plus celui d'origine, c'est donc l'endroit où il y a le plus d'ancrage. Après, Rouen, moins. Et puis, Rouen, pendant très longtemps, a été un peu gêné par le fait d'avoir quand même été le lieu du procès et le lieu de la mort.
Et le lieu du bûcher,
c'est Rouen, le lieu du bûcher. Et donc, a moins célébré. Mais les célébrations rouennaises sont donc beaucoup plus tardives et toujours un peu gêné. Et puis, en dernier plan, c'est Don Rémy qui s'impose plus tard.
On y viendra parce que ça, c'est au 19e siècle que Don Rémy se singularise. La Lorraine a été moins dévote que les Pays de Loire au souvenir de Jeanne d'Arc dans les premières années.
Oui, Don Rémy, c'est un tout petit village. Tandis qu'Orléans, c'est une grande ville. Pour soutenir une mémoire, il faut une grande ville.
Charles VII n'avait pas fait grand-chose depuis 1431 pour la mémoire de Jeanne. En 1449, quand il entre dans Rouen, il est devenu le roi très victorieux, il ordonne une enquête sur le procès. La famille de Jeanne a eu sa part aussi dans la réhabilitation.
À Notre-Dame de Paris, la mère de Jeanne vient présenter le rescrit par lequel le pape autorise la révision. Autour d'elle, ceux de Don Rémy, ceux de Vaucouleur, de Chinon, d'Orléans, de Reims, de Compiègne. Tout le passé revient avec cette voix que le chroniqueur appelle une lugubre plainte. Bien que ma fille n'ait pensé, ni ourdi, ni rien fait qui ne fût selon la foi, des gens qui lui voulaient du mal lui imputèrent mensongèrement nombre de crimes. Ils la condamnèrent iniquement et la voix désespérée se brise. Alors, Paris, qui ne se souvient plus d'avoir jamais été bourguignon, Paris, redevenu soudain la ville de Saint-Louis, pleure avec ceux de Don Rémy et de Vaucouleur, et le rappel du bûcher se perd dans l'immense rumeur de sanglots qui monte au-dessus de la pauvre forme noire. L'enquête commence.
Et nous, on a du mal à continuer.
On est en 1455, quand même, à Notre-Dame, c'est parfaitement exact. Et ce procès en nudité est un procès qui pose des questions très compliquées. Parce que le roi ne peut pas le demander lui-même. Parce que l'Inquisition ne saurait se déjuger. Comment voulez-vous que l'Église infaillible se déjuge? Et donc, il va falloir trouver une solution qui contourne l'obstacle et faire appel à la mère. C'est une des possibilités.
Quand même, ces deux procès, celui de 1431, celui de 1451, qui sont menés selon des procédures d'inquisition, mais avec des intentions différentes, font comparaître beaucoup de témoins, ce qui vous fait dire, Colette Beaune, que Jeanne d'Arc est un personnage extrêmement documenté si on le compare à beaucoup d'autres du Moyen-Âge.
Oui, il y a deux procès, il y en aura même trois si l'on compte le procès en canonisation au 19e, et aucune femme pratiquement pour cette époque-là n'a fait l'objet d'une documentation aussi sidérante, documentation qui de plus a été conservée. Et les deux procès se complètent bien parce que le premier procès, c'est Jeanne seule qui est interrogée, c'est donc que sa voix qu'on entend. Et le deuxième procès, ce sont les témoins de Don Rémy, d'Orléans.
Une centaine de témoins.
Des paysans à Don Rémy et des gens de la ville à Orléans et à Rouen.
Peu de personnages du Moyen-Âge sont autant documentés. Pas de femmes du Moyen-Âge sont autant documentées.
Oui, absolument. Parce que avoir été condamnée comme hérétique et après devenue sainte, c'est arrivé quand même à très peu de personnes.
Alors attendez, il y a une longue distance entre la réhabilitation et la canonisation. Je vous propose qu'on s'arrête un moment sur l'Ancien Régime. Par exemple, en prenant une pucelle, celle du XVIIe, puis une autre pucelle, celle du XVIIIe siècle. La pucelle un peu oubliée du milieu du XVIIe, c'est
celle de Chapelain. Le problème de Jeanne d'Arc, c'est qu'avec une documentation énorme, il y a plusieurs Jeanne d'Arc différentes dès l'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des Jeanne d'Arc de gauche, des Jeanne d'Arc de droite, qui sont après tout faisables. On peut s'appuyer sur des éléments d'un procès ou de l'autre pour défendre tel ou tel sens. Pour les Armagnacs, Jeanne d'Arc était quelqu'un de parfait, qui faisait des miracles, qui secourait la France. Et pour les Bourguignons, pour les Anglais, elle était une sorcière. Et pour les Bourguignons, c'était une fille manipulée, il y avait quelqu'un derrière.
Pour Chapelain, qui écrit au milieu du XVIIe siècle et qui est un protégé du cardinal de Richelieu, c'est un de ces personnages qui ont fait l'unité de la monarchie française.
Absolument. Et il utilise la pucelle contre les protestants, protestants de La Rochelle en particulier, alliés aux Anglais. Et donc on retrouve la même solution que lors de la guerre de Cent Ans, Jeanne d'Arc et les Anglais de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle la pucelle qui délivre la France au 15e, c'est en gros Richelieu, si l'on peut dire, qui délivre la France, l'homme à la robe rouge, qui délivre la France dans les années 1630.
Cette pucelle de Chapelain est peut-être injustement oubliée. La pucelle de Voltaire, alors elle, c'est le 18e siècle, a connu trois versions successives et un nombre d'éditions inouï.
Oui, injustement oubliée, je ne sais pas. Oui, le texte est nul. Ça, c'est tout à fait vrai.
Vous parlez de qui, là ?
De Chapelain.
Ah bon ?
J'aurais pu le dire de Voltaire aussi, mais pour des raisons tout à fait différentes. Le texte est nul, mais les gravures d'Abraham Boss sont absolument sensationnelles et elles vont donner naissance à des séries de tapisseries en particulier et de tableaux et aux premières représentations de Jeanne entourée de ses moutons et de la bergère. Donc, si vous voulez, ce livre est important. Pareil.
Ça, c'est Chapelain. Et alors, donc, vous dites que le texte de Voltaire est nul ?
Oui. Oui, des fois. Oui.
Mais il la présente comme une malheureuse idiote.
C'est une malheureuse idiote, c'est une fille qui cherche absolument à perdre son pustage et elle se demande avec qui.
Alors, parce qu'il faut que toute fille tombe.
Absolument. Et alors elle n'a pas beaucoup de choix malheureusement, enfin personne qui lui plaise vraiment. Alors il y a aussi, alors elle pense aussi plus ou moins à un âne qui paraît-il est bien monté. Mais enfin vous voyez, c'est une espèce de charge, c'est fait pour être vulgaire. C'est fait pour ça. Et ça y réussit très bien, d'ailleurs.
Vous vous souvenez qu'il y a eu une autre version, l'hypothèse du lesbianisme ? Non, je la cite pour mémoire,
oui,
parce que c'est un certain Lebrun qui l'a porté.
Oui.
Bon, Jeanne d'Arc, c'est complètement nul aussi. Bon, d'accord. Bon. Alors, passons, si vous le voulez bien. On va arriver à la Jeanne qui vous intéresse, Colette Beaune, à la Jeanne qui non seulement est une bergère, mais qui nous représente, nous, le peuple, toute la France qui va se formaliser au XIXe siècle. Et dont voici un écho un peu lointain, mais je suis heureux de vous offrir un extrait d'une œuvre que vous ne connaissez pas. Nous non plus, on ne la connaît pas très bien, on ne sait pas le nom des interprètes. On sait que c'est Edmond Flegg qui l'a composée, que c'était une commande du Front Populaire. On célèbre le Front Populaire à la marge de l'histoire depuis le début de la semaine, une commande pour l'exposition universelle de 1937.
Loyaux Français, venez tous en bonne voie au devant du roi Charles. Et toi, ô et redouté duc de Bourgogne, fais avec le roi de France bonne paix qui dure longuement. Or, sire, ayez connaissance de garder la justice, car je suis venu pour les pauvres et pour les indigents. Et maintenant, qu'il plaise à Dieu que je m'en retourne filer ma laine et garder mon troupeau.
Quand son cœur eut brûlé, voici que dans les cendres éteintes, son cœur était resté intact. Il vit toujours ton cœur, Jeannette. Il battra toujours. Entends, entends les cloches de l'avenir. Jeanne libératrice, la liberté que tu voulus, ton cœur toujours vivant, la fera vivre un jour.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Colette Beaune, nous parlons de l'avenir de Jeanne, deux livres chez Tempus, une collection de la maison d'édition Perrin, dont l'un consacré à l'histoire du mythe de Jeanne. L'avenir de Jeanne, il est au 19e siècle. On va y venir, mais racontez-moi quand même cette histoire de cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a mis dans la salle?
Ouais, c'est une légende peut-être, mais qui date de l'époque du bûcher, que son cœur n'avait pas brûlé parce que le cœur des héros ne saurait brûler, etc. Et donc, pendant, à Rouen, on a pensé qu'il avait été conservé pendant pas mal de temps. En fait, toutes les cendres ont été jetées dans la Seine et il ne reste plus rien de Jeanne d'Arc, ni cendres, ni objets, malheureusement.
Mais moi, je verrais bien le cœur flotter comme ça, dériver, monter, sur le cours de la Seine.
Monter au ciel, flotter,
ou monter au ciel,
si vous voulez.
L'avenir de Jeanne se construit au 19e siècle.
Oui, parce que on a un passage d'une personnalité monarchique qui, dans le règne de Charles VII, ne sert quand même qu'à aider le roi. C'est le roi qui reste au premier plan dans toutes les histoires qu'on écrit jusqu'à la Révolution. Mais justement, après la Révolution, il va falloir réécrire l'histoire de France. On ne peut plus l'écrire de la même façon, puisqu'il n'y a plus de roi, puisque la religion est contestée, et que c'est le peuple qui passe au premier plan. Donc on cherche avant 1789, qui a pu annoncer la République en quelque sorte et qui a pu personnifier le peuple. Alors on trouve, il y a bien sûr il y a Jeanne d'Arc principalement, il y a le Grand Ferré, il y a Étienne Marcel. Mais enfin il n'y en a quand même pas tellement. C'est assez difficile. Et puis là, avec Jeanne d'Arc, on trouve une personnalité féminine. Et certains, comme Michelet, vont penser que puisque la France était femme, elle ne pouvait naître que du cœur d'une femme et de son sacrifice.
Le texte de Michelet, c'est 1841.
Oui.
Et c'est absolument fondateur.
Mais c'est depuis 1820 que cette idée a commencé avec Augustin Thierry dans les lettres sur l'histoire de France. Et le texte de Michelet, bah, il est très beau et donc
alors
tout
Michelet,
le monde plus ou moins le répète.
A le soin des archives, peut-être pas toujours dans son livre sur Jeanne d'Arc, il y a...
Si, mais c'est une interprétation des années 1840.
Il y a quand même un grand nom d'archiviste qu'il faut mettre en symétrique de Michelet. C'est le nom de celui qui édite les actes des procès.
Oui, Quichera, qui était chartiste, a reçu une commande de la Société d'Histoire de France qui voulait publier tous les grands textes indispensables aux Français cultivés. Problème de Jeanne d'Arc, c'est que les procès avaient été longtemps assez mal connus jusqu'à la fin du XVe, très partiellement publiés. Et donc là, il a entrepris une publication complète, c'est en latin, je précise. Et il a entrepris de publier non seulement les deux procès. Non, mais dans les années 60, on éprouvera le besoin de traduire Quichera en français, quand même. Et il a aussi publié les chroniques de l'époque, en gros, pratiquement tout ce que l'on connaissait sur Jeanne d'Arc. Les mémoires des avocats du roi au moment du procès en réhabilitation, qui longtemps ont été peu utilisées.
Jeanne d'Arc égale le peuple, égale nous,
oui,
sont les équivalences voilà. Que Quichera et Michelet pratiquent l'un et l'autre, oui. Parce qu'ils appartiennent l'un et l'autre au côté républicain de l'opinion.
Oui, mais justement, c'est un problème. Lors de la 1909, lors de la cérémonie de béatification, le pape dira « Jeanne est nôtre ».
Ouais.
C'est le contraire.
Ouais.
C'est vous, c'est pas vous. Et ça explique que durant tout le 19e, il y a eu en fait deux Jeannes face à face. La Jeanne des Républicains et la Jeanne des Catholiques. Et lorsque vous regardez les manuels scolaires, ce qui est un très bon document, qui sont très nombreux pour cette époque, puisque l'histoire est enseignée dans le primaire, ce qui n'était pas le cas avant, vous pouvez, en regardant ce qu'on raconte de Jeanne, en particulier sur le problème des voix, savoir si vous avez un manuel destiné à l'école catholique ou bien un manuel destiné aux Républicains.
Alors, le problème des voix, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu Malraux. Juste un moment pour bien préciser les dates. C'est d'Orléans, 1869, de la voix de l'évêque d'Orléans, qui portait beaucoup, c'était un sacré organisateur, Monseigneur Dupont-Loup, qui est lancé l'initiative de la canonisation qui va mettre des dizaines et des dizaines d'années avant d'aboutir. Mais revenons à la question des voix dont vous dites qu'elle est un marqueur entre les partisans d'une Jeanne et les partisans d'une autre. Alors, ils sont tous d'accord sur le fait qu'elle était une bergère, mais entendait-elle des voix ?
Bon, elle n'est pas une bergère. Hein.
Oui, mais
c'est un mythe, ça.
Oui, mais ils étaient tous d'accord pour dire qu'elle était une bergère.
Hein. Oui, c'est
mais,
pas vrai.
Oui, mais attendez, est-ce que c'est si important ce qui est vrai ? On écoute Malraux.
Nous savons aujourd'hui qu'à Chinon, ici même, à Reims, à la guerre et même à Rouen, sauf pendant une seule et atroce journée, elle est une âme invulnérable. Ce qui vient d'abord de ce qu'elle ne se tient que pour la mandataire de ses voix. Sans la grâce de Dieu, je ne saurais que faire. On connaît la sublime cantilène de ses témoignages de Rouen. La première fois, j'eus grand peur, la voix vint à midi. C'était l'été au fond du jardin de mon père. Après l'avoir entendu trois fois, je compris que c'était la voix d'un ange. Elle était belle, douce et humble, et elle me racontait la grande pitié qui était au royaume de France. Je dis que j'étais une pauvre fille qui ne savait ni aller à cheval ni faire la guerre, mais la voix disait: va, fille de Dieu.
Et elle ne pose pas de problème à Malraux. Le merveilleux chrétien ne lui pose pas de problème. Au 19e, ça divise.
Au 19e, ça pose des problèmes. Ça ne pose aucun problème non plus à l'époque, au 15e. Même les bourguignons admettaient l'existence des voix. Tout le monde admettait l'existence des voix. Le tout est de savoir de qui venaient les voix. Est-ce que c'était les voix bonnes, c'est-à-dire la voix de Saint-Michel, par exemple, ou est-ce que c'était la voix du diable ? C'est là-dessus qu'on s'est battu durant le procès. C'est pas sur la notion de voix que tout le monde admet.
Mais au 19e, on se battait pas là-dessus.
Au 19e,
on disait, c'est une femme hystérique.
Voilà. Et l'hystérie féminine, c'est bien connu. Enfin, au 19e, en tout cas, on le croyait. Et par ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les romans à propos de Jeanne d'Arc vont grandir. C'est une fille manipulée. Il y a quelqu'un derrière le rideau qui joue la voix. En un sens. Longtemps, on a inventé ce genre de choses.
C'est curieux parce que les mêmes qui ne supportaient pas le merveilleux chrétien pouvaient, en revanche, croire à l'idée qu'il y avait une Jeanne qui avait survécu, que Jeanne avait échappé au bûcher, que Jeanne était l'admisseur
de
Charles VII. Ce que Laurent Deutsch croit encore. Mais alors, pourquoi les mêmes sont-ils si crédules alors qu'ils s'affirment souvent hostiles aux merveilleux chrétiens ?
Ils sont hostiles aux merveilleux chrétiens, mais justement, il faut le remplacer par autre chose, parce qu'autrement, on n'arrive pas à expliquer. Alors, il le remplace par une espèce de merveilleux de conte de fées, c'est-à-dire une fille de roi envoyée dans un lointain village et qui ensuite, évidemment, retrouve son frère qui lui donne une armée, ce genre de choses. Ou bien une fille de roi qui, parce qu'elle est fille de roi, survit et ce n'est pas elle qui est volée sur le bûcher, c'est une autre à sa place. C'est le survivalisme. Là, le survivalisme est nettement plus ancien que la fille de la reine Isabeau. Parce que le survivalisme, dès les années 1436, c'est-à-dire 5-6 ans après la mort de Jeanne, quelqu'un s'est présenté comme Jeanne. Hein.
C'était Jeanne,
Claude des Armoises.
Et quand on va au café Jeanne d'Arc à Metz, en face de l'église Sainte-Ségolène,
oui.
Je connais bien, moi, je trouvais cette adresse extraordinaire, mais en fait, c'est l'adresse de la fausse Jeanne d'Arc.
Absolument. Qui a habité Metz après son mariage, etc.
Bon, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. De toute façon, vous ne convaincrez pas les mythographes qui construisent hypothèse sur hypothèse et qui vont se moquer, Colette Beaune, de toutes les sources que vous pouvez avancer. Et le 19e, fin du 19e, c'est aussi l'époque où la division se fait sur la question politique. 1878, les uns veulent fleurir pour l'anniversaire de la mort de Voltaire, l'auteur de La Pucelle, la statue de la place des Pyramides. Les nationalistes veulent fleurir en réponse à l'agression des partisans de Voltaire. Et le préfet de police interdit tout et envoie les fleurs à Don Rémy.
Oui, et il y a aussi, à cette époque-là, toute une campagne des ligues de femmes françaises pour se promener ce jour-là avec des petits bouquets à la main. Et ces petits bouquets, on se reconnaît les unes les autres, on forme cortège en un sens. Et comme ça, on contourne l'interdiction des autorités parce que on ne fleurit pas la statue exactement, mais c'est presque pareil.
Vous disiez que toutes les hypothèses des gens qui veulent récupérer Jeanne d'Arc peuvent souvent être défendus. Jeanne d'Arc disait, l'Angleterre, c'est pour les Anglais, la France, c'est pour les Français. Oui. Il y a une Jeanne d'Arc nationaliste qui est défendable, mais aussi une Jeanne d'Arc universaliste. C'est le dernier écho du discours d'Orléans d'André Malraux en 61.
Lors de l'inauguration de Brasilia, il y a 2 ans, les enfants représentèrent quelques scènes de l'histoire de France. Apparut Jeanne d'Arc, une petite fille de 15 ans, sur un joli bûcher de feu de Bengale, avec sa bannière, un grand bouclier tricolore et un bonnet phrygien. J'imaginais, devant cette petite république, le sourire bouleversé de Michelet ou de Victor Hugo. Comme les déesses antiques, comme toutes les figures qui leur ont succédé, Jeanne incarne et magnifie désormais les grands rêves contradictoires des hommes. Sa touchante image tricolore au pied des gratte-ciel où venaient se percher les rapaces, c'était la sainte de bois dressée sur les routes où les tombes des chevaliers français voisinent avec celles des soldats de l'an 2. Le monde reconnaît la France lorsqu'elle redevient pour tous les hommes une figure secourable, et c'est pourquoi dans les pires épreuves, il ne perd jamais confiance en elle.
Allez, on le redit, parce que c'est quand même une belle phrase. Le monde reconnaît la France quand elle redevient une figure secourable. Ça, c'est Jeanne d'Arc universaliste. Ça se défend aussi.
Ça se défend aussi. Et dès le 15e siècle, beaucoup ont pensé que Jeanne d'Arc n'avait pas été envoyée à la France seule, mais à la chrétienté en général, pour sauver l'ensemble de la chrétienté, qui correspondait en gros à l'Europe actuelle. Et on trouve des Jeanne d'Arc célébrées dans l'Empire, en Italie, en Espagne.
De même que les catholiques disent, ils sont universalistes aussi, Jeanne n'a pas seulement souffert pour la France, elle a souffert pour tous.
Oui, et dans les invités des années autour de Maastricht, d'un côté on dit Jeanne c'est le nom à Maastricht, mais de l'autre côté on dit Jeanne c'est l'Europe.
Alors on a eu quand même une démonstration de la manière dont on peut faire de l'histoire négative, Colette Beaune, en évacuant telle ou telle hypothèse à mesure que la raison défend ce travail. Et vous, vous êtes tombé sous le charme de Jeanne. Qu'est-ce qu'elle est ? On a compris ce qu'elle n'était pas, mais qu'est-ce qu'elle est pour vous ?
Un modèle de liberté féminine. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de France, vous savez.
C'est-à-dire ?
C'est une femme autonome, c'est une femme qui décide de ne pas rester à la maison, de ne pas faire d'enfant, qui est nulle en cuisine, moi aussi. Enfin bon, on peut se sentir des points... Une fille du 20e, 21e peut se sentir des points communs avec cette fille-là.
Mais elle s'est montée un cheval et vous ne savez pas conduire une voiture.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas Jeanne d'Arc.
Merci à vous Colette Beaune, vos livres chez Tempus, Perrin, l'un sur l'histoire de Jeanne et l'autre sur l'histoire de Jeanne chez les mythographes et les historiens.
Symbole de la patrie, Jeanne d'Arc, en devenant vivante, accède à l'universalité.
Alors, il y a une formule de Jeanne d'Arc que je peux utiliser pour annoncer le programme du jeudi de l'Ascension, plutôt aujourd'hui que demain, et demain qu'après.
Oui.
Ça, c'est une vraie citation. Alors, figurez-vous que demain, nous parlerons avec Emmanuel de Variskiel d'Alex de Fersen, autre personnage qui a alimenté nombre de légendes et souvent dans les mêmes milieux que Jeanne d'Arc. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Clara Garzon et Franck Olivard. À la technique, Lucas Vaillant, et à la réalisation, Jacques Sigal.